20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Nous sommes le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas. Clint Hill a 31 ans. Depuis 3 ans maintenant, il est chargé de la sécurité de la première dame des États-Unis, Jackie Kennedy. Il est entré à son service à l'élection de son mari, John, en 1960. Protéger la première dame n'est pas une tâche facile. En tant que membre du Secret Service, il est celui qui, dans la pire des situations possibles, a pour mission de se mettre entre la balle et la première dame, de faire barrage et donc potentiellement de mourir pour la laisser vivre. Clint le sait, cette visite dans le sud des États-Unis peut s'avérer compliquée. Ségrégationnistes, racistes, républicains acharnés, les Texans ne se reconnaissent pratiquement en rien dans ce jeune président démocrate, libéral, qui soutient l'un des leaders du mouvement des droits civiques, Martin Luther King. Et pour ne rien arranger à ce voyage, JFK a décidé d'être au plus près des Américains. Au menu, bains de foule et parades au sein des grandes villes du Texas. San Antonio, Houston, Fort Worth et Dallas donc, symbole d'une région qui semble oublier que les cow-boys n'ont plus leur place dans l'Amérique d'après-guerre. Preuve en est, alors qu'il est en train de prendre son petit déjeuner, le président a eu la surprise de voir une pleine page de publicité dans le Dallas Morning News à la manière d'un faire-part mortuaire. Bienvenue à Dallas, Mr. Kennedy. Pourtant, aujourd'hui, les rues de Dallas sont bondées. De nombreux habitants sont venus saluer le président et la première dame. À l'arrière de la limousine, John Fitzgerald Kennedy salue la foule. Il est assis à droite, Jackie est à sa gauche. Pendant ce temps, Clint, lui, court aux côtés de la voiture. Nous sommes le 22 novembre 1963, il est 12h30. Un premier coup de feu retentit venant de l'immeuble d'en face. Le président se tient la gorge. Clint court vers la limousine présidentielle avec une seule idée en tête, protéger la première dame. Il est tout proche de la voiture quand un deuxième coup de feu retentit et touche le président en pleine tête. Jackie Kennedy se précipite vers l'arrière, sur le coffre. Pendant ce temps, le chauffeur, lui, accélère. Clint manque de tomber, mais parvient à attraper le bras de la première dame et à la repousser sur son siège. Le président s'effondre sur les genoux de sa femme. Clint, lui, accomplit sa mission et use de son corps comme d'un bouclier en se plaçant au-dessus du couple présidentiel. Le cortège fonce vers l'hôpital le plus proche. La première dame crie à Clint « J'ai son cerveau entre les mains !» puis se tourne vers son mari pour lui dire « Je t'aime, Jack !» Quelques minutes plus tard, sur CBS, les programmes sont interrompus.
From Dallas, Texas, un flash apparemment officiel de Dallas au Texas. Le président Kennedy est décédé à 13h heure de Dallas, 14h heure de New York, il y a environ 38 minutes.
Clint Hill attendra 50 ans avant de parler publiquement de cette journée. Retour ce soir sur un assassinat qui bouleversera le monde entier et qui, aujourd'hui encore, nourrit de nombreux fantasmes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le seul magazine qui vous fait voyager au cœur des événements qui ont fait l'actualité. Ce soir, 58 ans, jour pour jour, après cet événement tragique, nous revenons sur l'assassinat du 35e et plus jeune président élu des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Dominique Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et l'on vous doit un livre passionnant, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin. En voici un des jours majeurs de l'histoire des États-Unis.
Absolument. Et quel jour ? Vous savez, c'est ce genre de jour où les gens qui l'ont vécu ou qui en ont entendu parler se disent toujours « Mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ?»
Exactement.
Quand tu l'as appris.
Ouais.
C'est le cas pour le 11 septembre, c'est le cas sans doute aussi pour le premier pas sur la Lune. Et c'est le cas pour ce jour-là, l'assassinat du jeune président dans les rues de Dallas.
Alors justement, racontez-nous les États-Unis en 1963.
C'est une Amérique en pleine mutation parce qu'elle vient des lire en 1960, 2 ans plus tôt, un jeune président donc John Fitzgerald Kennedy, qui avait 44 ans au moment de son élection. C'est la jeune génération qui arrive. Hein. C'est un héros de la guerre. Il a été blessé d'ailleurs, et ça lui le fera souffrir pendant toute sa courte vie. Et son idée, son charisme, sa volonté, c'est de faire une Amérique jeune, moderne, nouvelle. Il part de nouvelles frontières, et on se souvient son discours d'investiture en janvier 1961, où il dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.
Ouais.
Ça donne le ton. Hein, et c'est quelqu'un qui donc va se lancer, c'est un démocrate, il faut le préciser, qui va se lancer dans un certain nombre de grandes réformes de l'Amérique, notamment, bien sûr, les droits civiques, et donc d'essayer d'aller vers une égalité raciale, parce que c'est une Amérique qui sort de la ségrégation, un passé esclavagiste, contre la pauvreté aussi. Et puis c'est même un président qui avait, c'est incroyable, il demande l'impossible, il dit on va décrocher la Lune. Il a dit on va aller sur la Lune avant la fin de cette décennie. Donc vous voyez ce jeune président qui arrive là et qui évidemment veut révolutionner son pays, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait il incarne parfaitement cette Amérique moderne à laquelle il aspire. Son gouvernement aussi, il est toujours flanqué de son frère Robert Kennedy, qui lui dans les réformes est particulièrement offensif.
Ministre de la Justice.
Qui est ministre de la Justice et qui est offensif, et notamment évidemment contre l'apartheid. Donc il incarne cette modernité, mais est-ce que aussi, quelque part, est-ce qu'il n'incarne pas une forme d'idéalisme, parce que c'est ce que vous nous racontez? Qu'est-ce qui fait qu'il est perçu de façon peut-être parfois un peu délicate?
On est au début des années 60, pas très loin des années de guerre, et il y a une Amérique qui est encore la vieille Amérique,
oui,
et notamment il y a le traditionnel, qui croit aux valeurs traditionnelles, qui n'a pas très envie de changer. Il y a une partie de l'Amérique, notamment au sud, qui n'a pas très envie non plus d'aller vers une égalité raciale. Et puis, il y a un certain nombre de il y a une tension. On est dans la guerre froide. Il y a eu la crise des missiles aussi, l'année précédente, on a presque frôlé la Troisième Guerre mondiale à ce moment-là. Il y a des tensions internationales. Donc, il y a une partie de l'Amérique qui n'aime pas trop ce couple, parce qu'aussi, c'est un couple, il faut le dire. Il y a Jackie, quand même. Jackie Kennedy, qui incarne le charme, l'élégance, la culture, qui fait des dîners somptueux à la Maison-Blanche avec les artistes, les intellectuels. C'est la petite princesse de l'Amérique. Et ce couple-là, ça énerve aussi un certain nombre de gens qui ne veulent pas de ça, qui sont un petit peu secoués par cette nouvelle génération qui veut changer l'Amérique.
Voilà, qui veut changer l'Amérique. Pourquoi JFK s'est-il rendu à Dallas ce 22 novembre 1963?
Alors, on est en novembre 63, c'est-à-dire un an avant une nouvelle élection présidentielle. Donc, JFK veut renouveler son mandat. Et le Texas, pour lui, c'est un État, ça l'est encore d'ailleurs, c'est un État clé. Il y a 24 grands électeurs. C'est un État où les démocrates sont très divisés, parce que justement, il y a encore cette fraction chez les démocrates de conservateurs, avec sans doute des relents de racisme. Son vice-président, Lyndon Johnson, est un Texan. Il a choisi justement pour cela. Donc, il y a un enjeu électoral à aller au Texas. Et donc, l'équipe de campagne, parce qu'il commence sa campagne pour sa réélection, a décidé d'aller montrer le président et d'aller essayer de séduire cet État qui est un peu récalcitrant.
Voilà. Et tout en sachant, en connaissance de cause, que Dallas est une ville dangereuse, où la violence fait rage. C'est une ville riche également, mais dangereuse.
C'est une ville dangereuse parce qu'il y a une haine qui suinte un peu partout. C'est la haine de l'État fédéral. C'est un État et une ville où il y a un taux d'homicide très important. Vous savez, c'est l'argent du pétrole. C'est aussi le Far West.
C'est aussi les
cow-boys. Voilà. Et donc, il y a une tension extrême. Et c'est vrai que l'équipe de campagne de Kennedy est inquiète. Et lui-même aussi est inquiet. À Dallas, c'est à haut risque.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit et qui vous emmène ce soir à Dallas, au Texas, en 1963, le 22 novembre précisément. Le Texas, on l'a dit, Dominique Simonet, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Le Texas, c'est la terre des cow-boys, des industries pétrolières et du coton, qui accueillit avec animosité le président John Fitzgerald Kennedy la veille de son assassinat. Pourquoi Kennedy est-il si impopulaire à Dallas où il se rend?
Je crois qu'il y a une culture du Sud, une culture de Dallas. Il n'aime pas beaucoup les réformes qu'entreprend aussi Bob, le frère qui est ministre de la Justice et qui s'en prend, il faut bien le dire, à la mafia. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas très envie de ça. Ils n'aiment pas du tout les réformes pour l'égalité raciale et toute la lutte pour les droits civiques que mène John Kennedy. Donc il y a une animosité, et même au sein de son propre parti, comme on le disait tout à l'heure.
Alors, il y trouve quand même à Dallas un comité d'accueil qui donne envie de prendre l'avion du retour.
Oui, c'est assez hallucinant.
Parce qu'on disait que c'était une ville violente, une ville de cow-boys, mais effectivement, la façon dont il a été accueilli, racontez-nous ce qui s'est passé le jour même et la veille.
Il y a un journal qui s'appelle le Dallas Morning News qui fait carrément une liste de griefs en guise d'accueil, tout ce qu'il reproche au président. Et il y a même un groupe d'activistes qui distribuent des tracts dans les rues. Vous savez qu'avec le portrait, comme dans le Far West d'ailleurs,
wanted.
Avec le face et profil wanted, là. Et là, c'est recherché pour trahison avec la photo de John Kennedy. Donc le comité d'accueil n'est pas extraordinaire. Et c'est vrai que même John Kennedy, avant d'arriver dans l'avion à Dallas, il parle de ça, ils sont assez inquiets. Et il dit, bon, de toute façon, si on veut tuer le président, il suffit de se poster quelque part avec un fusil télescopique.
C'est fou, hein, quand même, après coup. Quels étaient les dispositifs de sécurité qui étaient mis en place en connaissance de cause, justement ?
Ce ne sont pas les dispositifs de sécurité qu'on connaît aujourd'hui, qui sont hallucinants.
Ça a marqué un changement aussi.
Absolument, ça a marqué un changement. Actuellement, un président... Et même Kamala Harris, quand elle vient à Paris, il y a une bulle qui est créée autour de la personnalité, une bulle dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Il y a des voitures blindées, il y a des avions, enfin, il y a tout un système absolument hallucinant. Là, il y a un service de sécurité assez classique, avec des gardes du corps, avec des policiers un peu partout, avec des renseignements. Les gardes du corps se communiquent par radio.
Une voiture décapotable.
Une voiture décapotable. Alors, la voiture décapotable, c'est effectivement, John Kennedy arrive à Dallas à midi, il est accueilli à l'aéroport, Jackie reçoit des roses rouges et on les place tous les deux dans une voiture décapotable à l'arrière. À l'avant prennent place le gouverneur de l'État et son épouse. Il y a quatre agents qui suivent dans une autre Cadillac, quatre aussi qui sont sur les marchepieds de cette même Cadillac. Là, c'est la voiture du Secret Service, et donc de l'agence qui est chargée de la sécurité du président et des personnalités. Et il y a aussi quatre motos qui sont entre les deux voitures, mais elles sont positionnées très précisément de manière à ne pas cacher le président et son épouse pour que la foule puisse le voir. Voilà, il y a un système de sécurité, mais malgré tout, il est extrêmement vulnérable.
Donc Dominique Simonet, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, je l'ai expliqué, raconté en tout début d'émission. Expliquez-nous ce qui s'est passé ensuite.
Alors, ce qui se passe après, c'est que la voiture arrive assez vite à un hôpital de Dallas. Le président est emmené tout de suite au bloc opératoire. On essaye de lui faire une trachéotomie parce que, comme un geste d'urgence, mais très vite on se rend compte que c'est fini, qu'il est décédé. Et il y a Jackie qui est là, qui l'a pas quitté d'une seconde, qui est resté dans le couloir pendant la tentative de le sauver et qui restera toute la journée d'ailleurs avec cette robe qui est tachée du sang de son mari.
Et qui rentrera effectivement par l'avion présidentiel et qui sortira de l'avion présidentiel dans la même robe qu'elle portait.
Dans la soirée, en rentrant à Washington.
À ce moment-là. À quel moment la mort de John Fitzgerald Kennedy a-t-elle été déclarée ?
Assez vite, parce qu'il y a un échange avec la Maison-Blanche, évidemment. Bob Kennedy, tout de suite au téléphone. Et puis, il y a un événement qui est important, c'est la passation de serment.
Avec Lyndon Johnson.
Avec Lyndon Johnson, parce qu'on ne peut pas laisser le pays avec une vacance du pouvoir. Donc il faut que le vice-président, qui est donc chargé d'assumer la fonction présidentielle, prête serment.
Voilà, et tout ça dans l'avion présidentiel, quand le corps de JFK est à bord.
Absolument, il a fallu d'ailleurs en urgence trouver un cercueil, je vous passe les détails, mais il faut dévisser les poignées du cercueil pour le faire monter dans l'avion. Ils ont enlevé des sièges pour qu'il puisse s'installer à l'arrière de Air Force One, hein, c'est l'avion présidentiel. Et il a fallu trouver une juge fédérale, et il y a une petite dame à lunettes totalement étonnée qui arrive là, parce qu'il faut une juge fédérale pour pouvoir faire prêter serment au nouveau président. Et le garde du corps dira, mais voilà, il y a 3 heures on est arrivé avec un jeune président charismatique et plein d'avenir, et on repart avec son corps dans un cercueil et un nouveau président.
En fait, on est en train de raconter un moment d'histoire, et avec le recul, Dominique Simonet, qui est le nôtre aujourd'hui, on se dit que c'est une bascule d'une violence inouïe. C'est-à-dire que ils ont dû vivre quelque chose d'une façon absolument automatique et sidérée.
Oui, c'est d'une violence inouïe, d'abord parce qu'il y a les images. Et il faut d'ailleurs préciser que le nouveau président, c'est aussi le président de l'image. C'est la première fois qu'à la télévision. D'ailleurs, il a gagné les élections en partie dans un débat face à Richard Nixon, où effectivement il avait meilleure allure que son candidat. Donc on est dans la civilisation de l'image tout de suite, et cette image-là, elle est abominable. De voir cette jeune First Lady essayer d'attraper le crâne de son mari, c'est horrible. Enfin, c'est une tragédie, et c'est répercuté dans le monde entier. Donc le choc est absolument considérable.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Merci de suivre Jour J avec attention et intérêt. Ce 22 novembre 1963, la nouvelle de l'attentat contre le président américain JFK se propage sur toute la planète avec un désordre que l'on peut comprendre, d'autant plus que l'on ne bénéficiait pas des mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Et sur Radio Luxembourg comme ailleurs, c'est la confusion qui règne. Kennedy est-il mort ou pas? Écoutez, nous avons laissé cette archive telle qu'elle est pour que vous compreniez bien la confusion.
Voici les informations que j'ai pour le moment. Attendez, je vous demande une petite seconde. Voici, alors écoutez, à l'instant, un flash qui tombe, qui vient de Dallas, d'après les deux prêtres. Vous voyez, nous sommes un peu dans une certaine confusion. Il y a un instant, je vous disais que l'un des prêtres qui a administré le président Kennedy dit « je ne crois pas qu'il est mort ». D'autre part, à l'instant, une information nous dit, d'après les deux prêtres, le président Kennedy serait mort.
Dominique Simonet, en fait là on est en train d'entendre un moment d'histoire, il faut bien se rappeler qu'on est en 1963, donc l'information ne va pas aussi vite qu'aujourd'hui, et cette gestion, cette difficulté à gérer ce moment d'histoire qui est à l'image aussi de l'atrocité qui vient d'être commise.
Oui, parce que le monde a commencé par les médias est sous le choc et n'arrive pas à réaliser.
C'est
un peu quelques décennies plus tard, comme le 11 septembre, on a beau voir l'image, et on s'est dit, mais c'est pas croyable. Est-ce que c'est vrai? Et là, c'est un peu comme ça. Ce couple, John Kennedy et Jackie, était dans le monde entier, un couple glamour, très, très suivi, très regardé. Et il y avait aussi un espoir d'une Amérique un petit peu plus douce, plus humaine. C'était la jeunesse, comme ça, qui s'exprimait. Et d'un seul coup, c'est comme un bel oiseau blessé. On comprend plus ce qui se passe. Les commentateurs ont eu beaucoup de difficultés à réaliser eux-mêmes. Est-ce que je dis pas une bêtise, est-ce qu'il est vraiment mort?
C'est ça. Alors le président, effectivement, est assassiné. Une demi-heure plus tard, c'est le journaliste vedette de CBS, Walter Cronkite, qui interrompt tous les programmes. Écoutez bien, le choc et l'émotion qui l'étreignent, il devra reprendre son souffle en pleine intervention. On sent qu'il doit encaisser l'annonce historique qu'il vient de faire.
From Dallas, Texas, un flash apparemment officiel de Dallas, au Texas. Le président Kennedy est décédé à 13h, heure de Dallas, 14h, heure de New York, il y a environ 38 minutes.
Voilà, c'est là. On imagine ce qui se passe.
Le vice-président Lyndon Johnson a quitté l'hôpital de Dallas, mais on ne sait pas où il est allé. Il va vraisemblablement prêter serment et devenir le 36e président des États-Unis.
Voilà, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec Lyndon Johnson, donc il va prêter serment en tant que vice-président des États-Unis dans l'avion qui lui-même transporte le corps du président JFK assassiné. Non seulement, effectivement, Cronkite, il est sous le choc de l'assassinat, mais en plus, il est déjà en train de raconter l'avenir. Il est sous le choc d'une information qui vient de se produire. Il raconte l'avenir là, qui est en train de se dessiner avec ce fameux Lyndon Johnson. C'est qui, Lyndon Johnson? Il est du pays, d'ailleurs.
Oui, oui, il est texan. C'est un démocrate plutôt conservateur. Il est assez différent de John Kennedy. C'était quand même un peu... exactement la même génération, et c'est quelqu'un qui d'ailleurs qui va se retrouver avec des dossiers considérables, parce que il va devoir gérer justement le dossier des droits civiques, la lune, la conquête lunaire et le Vietnam. Donc c'est quelqu'un qui d'un seul coup, lui aussi, on imagine qu'il se retrouve dans cet avion et en se disant je suis le président des États-Unis. C'est, il y a quelque chose d'assez
vertigineux.
D'assez vertigineux, oui.
Et il sera au cœur d'ailleurs d'une théorie du complot. On y reviendra un petit peu plus tard.
Bien sûr, parce qu'on l'accusera, évidemment, il est texan, on l'accusera d'avoir suscité ou fomenté un complot pour l'assassinat de John Kennedy pour prendre sa place. Mais bon, voilà, ça c'est l'une des thèses.
Les dirigeants du monde entier sont eux aussi évidemment sous le choc. Et puis il y a Martin Luther King aux États-Unis qui s'exclamera « Voilà ce qui m'attend, moi aussi, cette société est malade ». Il faut préciser qu'il sera assassiné 5 ans plus tard à Memphis.
Oui, à même...
que quelques mois après, ce sera Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy, qui sera abattu à son tour à Los Angeles. D'ailleurs, je vous invite à écouter les numéros de Jour J qu'on a consacrés à ces événements. Martin Luther King, il sent aussi une société qui... qui explose.
Il a, de toute façon, il était lui aussi dans la hantise et même la conviction qu'il allait être assassiné. Et là, ça sonne effectivement un chapelet d'assassinats politiques. Vous venez de le dire, il sera assassiné à Memphis en avril 68 par un tireur qui le vise depuis le balcon, depuis une fenêtre d'un immeuble en face de son hôtel où il est sur son balcon. Il y aura Bob Kennedy qui suivra quelques mois plus tard, lui, jeune sénateur, qui veut se présenter aux primaires démocrates et lui est assassiné à Los Angeles dans un hôtel. Et donc on voit c'est l'Amérique des années 60, c'est-à-dire c'est assez paradoxal, c'est celle des hippies, c'est celle du rock, c'est celle de la contre-culture, mais c'est celle du Vietnam, c'est celle des assassinats, c'est celle de la violence. C'est une époque qui est un beau miroir je sais pas si c'est le terme, en tout cas qui est un miroir de l'Amérique avec tout ce paradoxe entre une volonté de liberté mais l'esclavage, une volonté de convivialité, enfin d'avoir une société plus douce mais la violence.
Le jour même, un petit peu plus tard, sur Radio Luxembourg, on fait cette annonce.
C'est un homme, grand, mince et blond, qui est inculpé de l'assassinat du président Kennedy. Cet homme a 24 ans, il s'appelle Lee Harvey Oswald. Peu après l'attentat, il cherchait à se cacher, il avait l'air d'un homme traqué. Il s'est rendu dans un cinéma de la ville de Dallas et les ouvreuses ont remarqué qu'il changeait continuellement de place. Quand les policiers alertés ont voulu l'arrêter, Lee Harvey Oswald a tiré sur l'un d'eux et l'a tué.
Alors, Lee Harvey Oswald, qui est-il? Que sait-on de lui, Dominique Simonet?
On apprendra au fil des années qui il est, mais là, à ce moment-là, il est arrêté très vite, comme on vient de l'entendre. C'est un communiste fanatique, mais vraiment fanatique, qui développe apparemment une haine des États-Unis totalement radicale. Il a passé 3 années en Union soviétique. Il a même voulu avoir la nationalité russe.
Son épouse est soviétique aussi.
Voilà, il est pro-castriste, donc il est favorable au régime de Fidel Castro au Cuba. Et c'est quelqu'un qui s'est posté dans un immeuble officiel, un dépôt de livres scolaires, et qui a tiré 3 balles sur le président à ce moment-là. Donc, mystère, la question c'est, était-il seul? Y avait-il d'autres personnes? Ou alors a-t-il été commandité par quelqu'un?
On y reviendra un petit peu plus tard. 2 jours plus tard en tout cas, lorsqu'il sort d'un interrogatoire, Lee Harvey Oswald est assassiné à son tour devant les caméras par un certain Jack Ruby. Ah, c'est un petit gangster, un petit voyou du coin.
Oui, c'est ça, un petit gangster, un peu proxénète, un peu trafiquant de drogue.
Devant les caméras, bing.
Oui, devant les caméras. Il y a quelques liens avec la mafia locale. Bon, il y aura une enquête, on n'en sait pas trop. Il sera condamné à mort en 1964, avec une audience totalement bâclée. Et c'est quelqu'un qui est malade. Il mourra en cellule en 1967. Voilà, là aussi, mystère, pourquoi a-t-il tué l'assassin de Kennedy? La question reste ouverte.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
L'enterrement donc de John Fitzgerald Kennedy a lieu le 25 novembre, donc 3 jours après son assassinat. Cette fois-ci, c'est à Washington, un événement planétaire tellement fort qu'il sera aussi retransmis à la télévision soviétique. Alors que, rappelons-le, même si c'était l'accalmie, on était quand même en pleine guerre froide. À ce titre d'ailleurs, le premier secrétaire de l'URSS de l'époque, Nikita Khrouchtchev, sera le premier à signer le livre de condoléances. C'est la trêve devant l'atrocité du moment, Dominique Simonet?
Il y a un peu quelque chose de ça. En tout cas, ça reflète le choc mondial de cet assassinat. Il faut dire que les funérailles ont été extrêmement organisées, extrêmement mises en scène par Jackie.
Ouais.
Il y a eu 3 jours de deuil national et elle s'est inspirée des funérailles d'Abraham Lincoln. Donc, avec un certain nombre de rituels qui ont aussi marqué les esprits, et vous le soulignez, on entre dans la civilisation de l'image. Donc, les images vont être extrêmement fortes. Il y a une cérémonie à la Maison Blanche et au Capitole. Il y a une procession à pied jusqu'à la cathédrale. Jackie, tout le monde a vu ses photos. Elle est en voilette noire, avec ses enfants qui tiennent ses enfants
John
par la
Caroline.
Main. John et Caroline. Il y a un cheval noir qui passe en cavalier. Il y a Air Force One, l'avion présidentiel qui survole les funérailles. On se souvient de John, le petit saluant aussi. Donc tout ça est extrêmement visuel et tragique, jusqu'à la flamme qui brûle au cimetière de Arlington, un peu comme la flamme de l'Arc de Triomphe. Donc tout ça est totalement mise en scène pour montrer à la fois l'importance de l'événement et aussi de marquer l'histoire avec ce président qui n'a malgré tout été au pouvoir que peu de mois.
En tout cas, un événement qui va réunir les dirigeants du monde entier, un événement donc sous haute sécurité, même et surtout pour le nouveau président Lyndon Johnson. Écoutez.
À Washington, les services de sécurité redoublent de vigilance. Déjà, il est décidé que le nouveau président Johnson ne pourra circuler en voiture découverte et que sa garde personnelle sera plus forte. Mais avec la venue de 41 délégations étrangères, la police est sur le pied de guerre. Des bruits d'attentats continuent à circuler. Un téléphone a averti la sécurité qu'une bombe était déposée, prête à exploser, dans un avion stationné à l'aérodrome Dallas, et cela quelques instants avant l'arrivée du général de Gaulle.
Dominique Simonet, on avait arrêté Lee Harvey Oswald. Il venait d'être assassiné lui-même par Jack Ruby et continuait à planer comme ça la menace d'un nouvel attentat. C'est-à-dire que c'était les États-Unis qui étaient touchés en plein cœur à travers l'assassinat de son président.
Bien sûr, parce que l'assassinat d'un président devant le monde entier, parce que les images ont été diffusées devant le monde entier, effectivement, c'est un choc immense et c'est aussi une interrogation sur la sécurité. Et on se dit, mais ça peut arriver au prochain, ça peut continuer. Il y a effectivement un renouvellement total de la doctrine de la sécurité. Et au fil des années, elle se durcira de plus en plus.
Vous l'avez dit, le corps du président américain, il repose au cimetière militaire d'Arlington.
Arlington, c'est une simple femme qui vient d'accompagner son mari dans sa dernière promenade. C'est une femme qui repartira pour la première fois, mais à tout jamais, seule, seule malgré deux petits visages dans les yeux desquels, dans la bouche et dans les mimiques desquels, elle cherchera désormais tout ce qui pourra lui rappeler son grand John.
Là, derrière la grandiloquence de la narration, on met aussi en valeur une femme, une veuve éplorée, qui va avoir à charge deux petits-enfants. C'est un président assassiné qui rentre dans la légende et c'est une femme aussi qui restera une veuve mythique.
Qui rentre dans la légende, elle aussi. Et on a peut-être sous-estimé d'ailleurs son rôle, parce qu'il y a tout son aspect glamour, intellectuel, mais elle a aussi joué un rôle à plusieurs reprises dans la diplomatie. Elle pratiquait une forme de diplomatie douce. Elle a notamment charmé le général de Gaulle lors de la visite officielle à Paris. Elle est allée voir Nehru. Elle a fait un certain nombre de choses. Et surtout, là, elle a une détermination et un courage absolument incroyable, parce qu'elle a tout organisé. Et elle va même cultiver une forme de légende qu'elle appelle Camelot. Vous savez, comme cette comédie musicale qui se donnait à ce moment-là à Broadway, c'est la légende du roi Arthur. Et elle compare leur séjour à la Maison Blanche un peu comme la légende du roi Arthur, un règne un peu éclairé, glamour et qui fait rêver, quoi.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute et votre fidélité à Jour J. Dominique Simonet, vous êtes notre invité. Quelles sont les théories qui ont circulé après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? Elles ont été nombreuses.
Oui, on a.
Là, je vous livre une question pour une multitude de réponses. Débrouillez-vous.
Non, il y a eu beaucoup de théories, parce que bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu les balles ont été tirées depuis un immeuble par l'arrière du cortège présidentiel.
Donc leur trajectoire a posé question.
Alors leur trajectoire a posé question. Le président a été touché par l'arrière. On a retrouvé trois douilles, il y a trois balles. La première a touché Kennedy dans la nuque, a traversé son corps et a touché le gouverneur, ou aurait touché, parce que cette trajectoire est contestée, même par le gouverneur lui-même qui dit non, c'est pas cette balle-là qui m'a frappé. La deuxième a touché le président directement sur le crâne et a été mortelle. Et la troisième, ben on sait pas, elle s'est perdue. Donc, est-ce qu'il y a une quatrième balle? Est-ce que s'il y a quatrième balle, il y a un autre tireur? S'il y a un autre tireur, ça veut dire que Oswald n'était pas tout seul, donc il y a un groupe qui a préparé cet assassinat. Et qui? Et là, alors les thèses, elles sont, vous venez de le dire, elles sont multiples. On a parlé des pétroliers texans qui supportaient pas ce président. On a parlé de la mafia. On a dit tout à l'heure que la mafia était en guerre contre Bob Kennedy, ministre de la Justice. On a parlé de l'extrême droite, parce que évidemment, l'action du président sur l'action civique et sa relative faiblesse envers le Vietnam ne plaisait pas à l'extrême droite. On a parlé des soviétiques qui voulaient prendre leur revanche après la crise crise des missiles. On a parlé des émigrés cubains qui se sentaient abandonnés par JFK. Ou alors, à l'inverse, on a parlé des castristes qui reprochaient à Kennedy d'avoir, avec la CIA, tenté d'assassiner Castro. Donc vous voyez tout ça.
Même la CIA.
Même la CIA, absolument.
Ça fait partie, CIA et FBI.
Absolument, ils sont aussi soupçonnés. Alors, il y a eu différentes enquêtes. Il y a eu évidemment la commission Warren, qui est la grande commission qui a suivi l'assassinat, qui a rendu des conclusions en disant « c'est Oswald et il était seul ». Ça a été contesté. Et il y a eu différentes réouvertures du dossier. En 1976, il y a eu un rapport du Sénat, justement sur les agissements de la CIA, qui a rouvert le dossier, qui a donc détecté qu'un certain nombre de choses qui n'étaient pas très, très, très claires dans le dossier, qui a réécouté des témoins, mais les témoins étaient de moins en moins nombreux. Voilà.
Ouais.
En 1979, il y a encore une commission spéciale sur l'assassinat. On parle maintenant d'un deuxième tir. Les archives ont été déclassifiées. Il y a eu un certain nombre de documents nouveaux, mais ça n'a pas changé fondamentalement les thèses. Il y a eu des livres, il y a eu des films.
On pense Oliver Stone.
Oliver Stone. Ben voilà, on en est toujours là. On en est toujours dans cette interrogation. Oswald était-il seul? A-t-il agi de sa propre initiative? A-t-il été un peu poussé par les Cubains, par les Soviétiques? Tout ça n'est que spéculation.
Et Jackie Ruby, qui a donc assassiné Lee Harvey Oswald, n'a jamais donné la moindre information
On aurait bien aimé qu'il dise pourquoi il a assassiné, mais non, là non plus, ça n'a pas fait avancer d'un pouce le dossier.
C'est fou, parce que c'était lui qui pouvait donner la clé. En fait.
C'est vrai que l'idée qu'un homme seul comme Oswald, qui est quelqu'un d'assez fanatique et d'assez déséquilibré, puisse tuer de sa propre initiative un président, c'est pas totalement impossible. On voit bien aujourd'hui des fanatiques commettre des attentats. Je crois que notre problème, c'est que ce petit homme est tellement insignifiant, tellement médiocre, qu'on n'arrive pas à lui attribuer d'avoir bouleversé à ce point l'histoire. Et donc on n'arrive pas à se dire ça. On veut pas y croire, on se dit mais non,
ça
doit être plus grand que ça, il doit avoir quelque chose derrière, d'où toutes ces thèses et voire des théories du complot. Et la question reste ouverte encore aujourd'hui.
Je vous remercie en tout cas Dominique Simonet. Ça c'est un chapitre que l'on peut retrouver dans votre livre passionnant, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.